Je demandais qu'on projette ce strophe et j'explique quelque chose. Ce matin, mon gendre Philippe, il est venu jouer la guitare. C'était un peu difficile au début, mais l'objectif, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Vraiment évacuer tout le monde. Pas tout le monde, vous, mais tout ce qui est du monde. Le monde de nos jours est agité. Sérieusement, c'est presque terminal, ça. Le monde est agité. Et le monde veut nous entraîner dans toutes sortes d'agitations. Dernière agitation, ça m'agace. Vax et anti-vax. Si vous êtes vaxé, alléluia. Si vous n'êtes pas vaxé, alléluia. Amen, point barre. Jésus vous aime dans les deux cas. Eh oh! Les gens qui m'accusent d'être antichrist parce que je suis vacciné, basta, excusez-moi. Jésus m'aime encore. Ok. Je ne sais pas vous, mais ma tête est comme un broyeur. Tout un tas de trucs. Tout le temps. Et pour être « je suis tranquille car tu es là ». C'est un objectif. Excusez-moi, c'est un peu osé de le dire. J'aimerais vous vacciner avec cette phrase. Un objectif devant le Seigneur, je parlais du prophétique ce week-end, mais un des objectifs que je n'ai pas abordé, et je ne vais pas aborder, c'est qu'on retrouve la tranquillité spirituelle. Quatre fois de ma vie, j'ai perdu la voix. Première fois, c'était ma conversion. C'est une conversion étonnante. J'étais projeté dans l'air, lévitation carrément. Et ça a failli me tuer. Et je cherchais le Seigneur de tout mon être. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le baptême d'air sans vouloir le faire. Un jour, vous vous trouvez dans l'air, vous allez vous poser des questions. Quand j'ai trouvé la réponse, c'était Jésus qui voulait me toucher, mais le fait de se projeter dans l'air, l'éviter, c'était pas Jésus. L'ennemi voulait me tuer. Et quand je dis, OK, Seigneur, je te donne mon cœur. Prends-moi. La phrase, je te donne mon cœur. Prends-moi. Je n'ai pas parlé pendant 3 jours. Et là, j'ai trouvé tranquillité. Je ne parlais à personne. Et les gens me parlaient parfois, mais j'étais là, bouche bée. C'était comme ça. Et j'aimerais que chacun fixe un objectif. C'est très sérieux. Je veux trouver la tranquillité devant le Seigneur, dans sa présence. Au fil des années, j'ai adopté plusieurs disciplines, une discipline que j'ai. Quand je monte dans la bagnole le matin, je vais quelque part, le premier rendez-vous de la journée, je vais soit aux courses, rencontrer quelqu'un, je ne touche pas le poste. Je ne mets pas de musique. Seigneur, je vais à ce rendez-vous. Viens avec moi. J'ai besoin de toi. C'est vraiment un moment où je fais le vide. Non pas pour faire le vide, mais pour inviter le Seigneur dans cet espace. Combien ce matin, je peux dire 100%, j'ai la réponse, combien ce matin, pendant le temps de louange ou le début par la guitare de Philippe, combien ont eu les pensées en vadrouille? Au moins Bruno dit oui, c'est moi. Et sa femme a dit non, ils sont spirituels, hein, ces deux-là. Vous tous, hein? Les pensées, pfiou. Non. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, scelle cette parole dans le cœur de tout le monde, que ça devienne un objectif spirituel. Sans tranquillité, on ne peut pas entendre la voix du Seigneur. On entend la voix Facebook, on entend la voix YouTube et tout le reste. Sans parler des SMS et tout le reste. Je suis tranquille quand tu es là. Je fais un retour sur une parole prophétique que j'ai donnée hier, et je donne vraiment une version condensée, et je touche un point pour moi qui me semble très important. Hier, j'ai eu une parole pour l'Assemblée, c'est le moment de retourner la terre, et dans le temps de retourner la terre, vous allez trouver plein de choses que vous ignorez. Retournez la terre. Il y a combien d'agriculteurs dans l'Assemblée ici? Combien? Retourner la terre, ça ne vous dit rien du tout. Retourner la terre, je peux l'expliquer comme ça. J'ai lu le discours de Pierre le jour de Pentecôte et la réponse de la foule. Frères, que ferons-nous? Et Pierre a dit, répondez-vous. Je ne vais pas plus loin. Répondez-vous. J'ai lu ça, oui. Tout le monde connaît ce verset. Amen, oui. Vous connaissez. J'ai pris une traduction moderne et j'ai lu le même, juste pour comparer. J'ai lu le même, jour de Pentecôte, Pierre donne la parole et les gens disaient, frère, que ferons-nous? Et Pierre dit, traduction moderne, changez de comportement de vie. Répondez-vous. Changement de comportement de vie. Aïe, 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 quelle traduction moderne. C'est bizarre ce truc. Mais là, j'ai trouvé les perles. Répondez-vous dans la tête en chrétienne, c'est un acte, un jour, un endroit, une heure précise. Changer de comportement de vie, c'est toute la vie. Que tout change, que tout bascule. Et Dieu veut vous donner d'autres priorités. Il veut que vous retrouviez les vraies valeurs. Retournez la terre, vous allez retrouver certaines choses. Harmonie familiale, paix et sécurité. Beaucoup sont troublés par un manque de sécurité. Sécurité d'emploi, de logement, de toutes sortes de choses. Mais j'aimerais toucher un point, l'utiliser comme un exemple. Quelques-uns sont touchés par ce point. On va prier tout de suite pour vous. Il y a quelques années, 2001, on est retourné en Amérique. On était début de burn-out, bel et bien burn-out. C'était un temps très difficile. Et on rentre en Amérique brisé. Et notre grand chagrin, le soutien financier n'était pas au rendez-vous. Et on était déplumé d'une petite somme de 20 000 euros. Ouh, 20 000 euros. Et là, ça pesait très lourd dans le cœur. Ça m'a détruit pendant un temps. Et un jour, je lisais un bouquin d'un auteur, Larry Tomczak, il est peu connu ici. Je lis le livre et au milieu du livre, il raconte une histoire. Et dans cette histoire, sa femme vient au bureau un jour et elle est toute excitée. Elle fait « Oh, 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 Larry, oh, 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 oh. » Mais Doris, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toute excitée? Tu te rappelles de Bob? Bob, j'ai connu 18 000 dans ma vie. Bob, c'est un nom très courant. Bob. Quel Bob? Le petit, tu prenais ton bras comme ça, il était tellement petit, il passait sous le bras. Bob, ah oui, le diacre de l'église à Washington. Oui, ce Bob-là. Pourquoi tu es si excité? Oh, il est mort! Et Larry? Mais je trouve très étrange, tu es tellement joyeuse. À cause du décès de Bob? Oui! Il nous a envoyé un chèque de 20 000 euros. Ça couvre toutes nos dettes. J'ai lu ça. 20 000. 20 000, ça fait 20 000. Pas un centime de plus ou de moins. J'ai eu le livre dans ma main, comme ça. J'étais vraiment, waouh, enragé dans le Seigneur. Vous comprenez cette expression? J'ai pris le livre, excusez-moi, je le fais devant vous. Je l'ai cogné au bureau. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob et Larry. 20 000, Seigneur, c'est tout. John, tu viens de prier ça. Oui, je causais avec moi-même tout de suite. C'est un peu osé. Et j'avais un débat avec moi-même. Tu demandes des choses, mais d'où viennent les 20 000 euros? Ah bah, pas de réponse. Bam! Abraham, Isaac, Jacob et Larry. Affaire réglée. Combien de temps passé avant qu'on ait eu le chèque? Bon, c'était moins d'un mois. Moins d'un mois, un chèque arrive dans la boîte aux lettres. Wouhou! Combien? Non, plus! Ça dépassait tout juste 20 000. Tout juste 20 000. Quand vous laissez le Seigneur, retournez vos cœurs, vraiment travaillez la profondeur de vos cœurs, où les valeurs, les objectifs changent. Vous allez découvrir des choses perdues. Là, on a perdu les 20 000 euros. Et on les a eus de nouveau. Qui était déplumé? Déplumé, je parle fric. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, c'est l'évangile tout court. Tout court. Qui était déplumé? Qui a perdu de l'argent? Il y en a dans la salle. Qui a perdu de l'argent? On va prier pour vous, pour que Dieu vous le rende. Ce matin, si vous laissez le Seigneur vous travailler, vous allez trouver les choses perdues. Levez-vous. Levez la main, maintenant c'est à vous de vous lever. Il y a au moins 5 dans la salle. Ok, lève-toi. Tu es à moitié levé ou pas du tout? Toi, pas du tout, ok. Mais c'est 3, 4 et 5, ok. Ceux qui entourent ces gens-là, tout le monde va se lever autour de ces gens-là et prier pour que le Seigneur d'Abraham, Isaac, Jacob et John rende ce qui était volé. Allons-y, levez-vous, entourez les gens. Père Céleste, on prend une position ce matin. On prend une position ce matin pour tout ce qui était déplumé par l'ennemi, même la famille. Père Céleste, tu rentres au nom de Jésus. Le diable n'a plus droit sur sa vie dans ce domaine. Il n'a plus droit. Père Céleste, nous te demandons, tu vas travailler cette église et l'église va découvrir plein de choses, plein de bonnes choses, spirituelles, matérielles. L'amour, plein de choses perdues, volées. Père Céleste, rende au nom de Jésus. Rende au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Boum, 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 boum. Il y a un petit stand de livres là-bas avec le SAV prophétique, les bases de fonctionnement prophétique de l'église locale. J'ai un autre livre, Persévérer jusqu'à la fin. C'est une autre version du temps dans lequel nous vivons et quelques autres livres. il y a moyen de payer par chèque, édition Ménor. C'est marqué sur tous les livres, édition Ménor, si vous avez un chèque. Il y a un traité. J'ai trouvé très, très à propos, Armée du Seigneur. Ça parle des chevaux. Donc, c'est pour vous. Et j'espère que tout le monde en prend avant de partir. Plusieurs l'ont déjà eu à l'entrée, mais si vous ne l'avez pas, prenez à la sortie. Ça, c'est notre père spirituel, et c'est ce que j'appelle une parole prophétique élaborée. L'idée est venue prophétiquement, et il l'a mis sur papier, en forme de brochure, traité, et c'est pas court, c'est 4 pages, mais ça dit ce que ça veut dire, et je vous souhaite bon courage. Amen. Ok, mes amis, je vous présente Philippe et Annie. Philippe et Annie. Non, mais hey, bougez-vous de là. Hein. Notre fille est gendre et je vous présente Gloria, ma petite chérie. Donc, ce matin, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Hein. Et voilà! C'est Huguette. C'est Huguette. Je ne sais pas pourquoi ce que ça va donner, parce que je n'ai pas mes notes. C'est disparu dans le cosmos. Donc, je vais parler du cœur. Un jour, Huguette est venue et elle était visiblement gênée. Elle a dit, tu es mon pasteur, mais tu me gênes. Aïe, 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 on n'aime pas les discussions comme ça. Mais Huguette, pourquoi je te gêne? Mais tu dis dans tes messages parfois que le Seigneur te dit ceci, où il te dit cela. Tu le dis dans tes messages. Oui. Mais Huguette, où est le problème? Tu as un problème avec ça? Oui, j'ai un problème avec ça parce que le Seigneur ne me parle pas. Je n'entends pas la voix du Seigneur. Je ne l'entends pas. Tu l'entends, mais moi je ne l'entends pas. Et tu m'en veux. Au lieu de m'en vouloir, il faut plutôt que tu débouches les oreilles. Question tout simple. Est-ce que le Seigneur parle ou pas? Jean-Luc, le Seigneur parle? À quelle fréquence? À quelle fréquence? Il parle une fois tous les 3 mois? Ça dépend. Les choses conséquentes, c'est ponctuel, oui, oui, oui. Mais ma vision des choses, c'est que le Seigneur, c'est la parole. C'est indiqué, c'est écrit. La parole fut chère, la parole. Et la parole, il veut parler. Ma version des choses, c'est que le Seigneur parle tous les jours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'est pas lui qui ne parle pas, mais c'est nous qui n'entendons pas. Et c'est ça le drame. Dans la discussion avec Huguette, j'ai dit, écoute, on est là, tu as quelques temps, j'ai une bonne heure. J'ai dit, Huguette, on va retracer ta vie, toute ta vie, ok? On va retracer ta vie. Et je vais te montrer à travers ta vie combien de fois le Seigneur t'a parlé. On a du temps, on le fait. Tu t'es marié avec Freddy. Freddy n'était pas un gars facile, quand même. Mais Huguette disait, Freddy, j'ai peut-être mal choisi, mais le Seigneur y est pour quelque chose. Freddy, c'est mon mari. Elle chérissait, elle prenait vraiment soin de son petit bonhomme, Et bien, elle a dit, oui, le Seigneur est dans l'affaire. OK. Le Seigneur t'a parlé pour te marier, pour que tu te maries avec Freddy. Huguette, et là, je viens vraiment basique. Huguette, tu es chrétienne. Mais oui. Mais comment oses-tu dire je suis chrétienne si c'est le Seigneur qui ne l'a pas révélé à ton cœur? Si ce n'est pas le Seigneur qui te révèle ça, c'est la présomption pure et simple. Ah mais non, ma vie est dans les mains du Seigneur. Ok, ta vie est dans les mains du Seigneur, c'est parce qu'il t'a choisi, il t'a nommé, il t'a appelé à la conversion. Huguette, pourquoi tu es dans cette église? Oh ben j'aime cette église et le Seigneur m'a dirigé dans cette église. Huguette, coucou, il t'a parlé. Il t'a indiqué, il t'a dirigé. Oui, mais c'est pas sa voix, mais c'est sa voix. Vous comprenez? Il travaille à travers les circonstances, dans la parole directe, mais toutes les décisions de notre vie, si on est engagé avec le Seigneur, il y est pour quelque chose. Mais il faut l'avouer. Et l'objectif, ce matin, c'est une semaine sur le prophétique, mais que toute l'Église arrive à déboucher les oreilles dans des choses toutes simples. J'ai connu plein de gens, je connais pas beaucoup actuellement, mais j'ai connu dans le temps plein de gens qui allaient à la mer pour méditer, pour voir le coucher du soleil. Apparemment, le Seigneur parlait par un coucher de soleil, mais il m'a jamais parlé avec ça. Hein. Vous? Il vous a parlé? J'ai des amis qui... le Seigneur est beau, ils sont émerveillés par la nature. Quoi? Ah, ok. Pour être brut, c'est un peu une parole. Pam! Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Quand vous irez à droite, quand vous irez à gauche, écoutez ce qu'il dit. Et un objectif de la vie chrétienne, principal, basique, c'est d'être à l'écoute du Seigneur. Si on n'est pas à l'écoute du Seigneur dans la vie quotidienne, c'est dérive. C'est dérive. Je ne suis pas particulier, je ne suis pas spécial, mais je cultive l'écoute du Seigneur. Et une chose que je demande au Seigneur continuellement, Seigneur, j'ai dans le ministère, j'ai besoin de contact. J'ai besoin de contact. Seigneur, donne-moi les contacts pour mieux servir ton royaume. Un jour, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui m'a quand même un peu surpris. J'avais une pile d'affiches. On vivait à Cahors. Qui sait où est Cahors? C'est là-bas, vraiment là-bas. Il n'y a pas beaucoup de nordistes qui passent à Cahors, mais c'est une ville charmante. Je le recommande vivement. On avait une pile d'affiches pour le Seigneur et il y avait une jeune femme, Valérie, une Anglaise, qui était avec nous. J'ai dit, écoute Valérie, viens avec moi, je t'ai inspiré. On va coller les affiches au mur dans la ville de Cahors. Viens de Jésus, blablabla, c'était des bonnes petites affiches. Donc, on va en ville, on affiche un peu partout, et on est devant un panneau, je pose la colle, Valérie me passe l'affiche, et je le colle. Et on est là, devant le panneau d'affichage, et un gars qui arrive un peu. Où est la poste? The post office is right there. Go right around the corner, first door on the right. C'était un anglophone qui essayait de demander où est la poste. Donc, j'ai indiqué, il était juste à côté de la poste, et j'ai posé des questions. Pourquoi vous voulez aller à la poste? Mais je cherche quelqu'un. Et j'ai vraiment besoin, j'espère que je peux le trouver. Ah bon? Tu cherches qui? Je cherche John Tressel. Ah bon, ok. Ah bon? C'est intéressant, c'est moi. On s'est rencontrés quelques années avant. Et le monsieur, il était anglais. Je ne suis pas anglais, je suis américain et français maintenant. J'ai le passeport pour le prouver. Et il est allé en mission en Niger. Vous savez où est le Niger? C'est l'autre là-bas. Vraiment là-bas, c'est perdu. Et il est allé en mission avec toute sa famille. Et il revenait de mission avec une Land Rover, le bon vieux style des années, je ne sais pas quoi, mais ça prédate l'histoire presque. Et il raconte l'histoire, on vient de traverser le Sahara, en Land Rover, toute la famille. On passe en Espagne et le Land Rover tombe en panne et on n'avait pas d'argent et on a volé toutes nos affaires et on n'avait plus rien et on mangeait les oranges qui tombaient des arbres et on a passé quelques temps difficiles. Mais on a pu contacter quelqu'un en Angleterre qui a envoyé l'argent pour réparer le Land Rover, mais on n'a plus de gasoil pour aller plus loin. Et je me suis souvenu d'un John Tressel que j'ai rencontré quelques années avant, mais je n'ai pas son adresse. Mais je me suis rappelé, il vivait à Cahors. Donc, je suis venu à Cahors pour te chercher. Il a traversé tout le Sahara pour me retrouver à Cahors. Pour dire que c'est Lazare. Non. Donc Mike, il s'appelait Mike. Mike et moi, on discute de ça. Et là, c'était passionnant. Et vers la fin de la discussion, qui était à côté de moi? Valérie. Je me tourne vers Valérie, elle est blanche. Blanche. Elle était presque pétrifiée. Et je dis, mais Valérie? Mais qu'est-ce qui se passe? Avec une petite voix cassée, Mike! Oh, Mike! C'est Valérie! Valérie était prévue de partir en mission avec la famille de Mike pour être l'au pair en Niger. Avec eux pendant tout le temps de mission, elle était prévue de partir avec eux et elle était diagnostiquée diabète. Diabète, la semaine avant le départ du bateau de Liverpool. Elle est restée en Angleterre. Mais de retrouver Mike à Cahors avec les affiches dans la main, elle a dit, Mike, c'est pas possible. Valérie était très riche. Mike était très pauvre. Et Valérie a dit tout de suite à Mike, je vous paye le retour. Et tout le monde était content et le royaume de Dieu s'est avancé. Amen. On vit ça une fois de la vie. Une fois la vie, on vit ça et on dit, waouh, ça je veux davantage. Ah, ça m'arrange beaucoup. Moi, j'étais gonflé, je marchais comme ça, pas sur l'eau, mais sur l'air. Hein, d'entendre la voix du Seigneur inspirée. Valérie, on va mettre les affiches en ville. C'était banal. Banal, un truc comme ça. Mais vous avez des décisions banales toute la journée où le Seigneur y est pour quelque chose. Amen. C'est vraiment important que vous reconnaissiez que Dieu, il est Dieu de ta vie. Il te dirige à gauche, à droite. Si tu le sais, tu ne le sais pas. Il est là. J'ai le laser. Ah, yes, you can't. J'ai emprunté cette phrase de quelqu'un, vous savez qui? Obama, yes, you can. Le diable, il dit, yes, you can't. Je ne suis pas assez bon, je n'arrive pas. C'est impossible. Moi, un petit pommet, je peux dire quelque chose? Je dis déjà quelque chose, mais je peux dire autre chose. On a vécu les quatre coins de France. Littéralement, sauf un peu dans le sud-ouest. Sud-est. Et chaque région a les points forts on se sent tout à fait nordiste avec vous. 4 ans à Waterloo, à là. Vous avez tous vu Bienvenue chez les Ch'tis. On l'a vu. On a pleuré. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Vous qui êtes Ch'tis, plus ou moins Ch'tis, ok? Vous ne vivez pas la même chose que ce facteur, ce agent de poste qui est muté dans le nord. Vous ne vivez pas ça. Nous l'avons vécu. Et ce film est vrai. Et c'est une qualité vraiment spirituelle et humaine. Mais il y a une autre qualité qu'on a découvert ici dans le nord que je n'aime pas. Je n'aime pas. J'essaie d'imiter l'accent. Je n'aime pas. Ce petit complexe d'infériorité déguisé en humilité. Ah, ça pue, hein? Ah! Bonjour les dégâts! Non, je ne suis pas assez bon! Moi, je suis un petit minable! Ah ben là, 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 là! On a entendu toutes les histoires imaginables. Devant le Seigneur, qui, dans cette pièce, n'est pas assez bon? Personne. Parce que si Dieu, par le sang de Jésus, vous a racheté tous, et lui, il l'a fait, vous êtes tous dignes. Et que quelqu'un vous dise, vous n'êtes pas assez bon, je vous donne permission, la prochaine fois que quelqu'un vous dit, vous n'êtes pas assez intelligent, ou même, vous êtes stupide, vous êtes ceci, bah, tout, je vous donne une fois, permission de cogner. Ok? Vous comprenez? Cognez la personne qui le dit, et si vous l'acceptez, vous vous cognez vous-même. Hein? Si vous l'acceptez, il faut arrêter ça. Absolument tout le monde est logé sur le même enseigne. Tout le monde est bon parce que lui, il est parfait. Jésus a tout fait pour nous donner accès. Et quand on dit on n'est pas assez bon, on méprise l'œuvre de Jésus. On dit que l'œuvre de Jésus sur la croix ce n'est pas suffisant. Il faut que je sois top, top, top. Mais on n'est jamais top, top, top. Lui, il est. Et je profite parce qu'il est top. Ok. Je monte là où il est. On peut dire haut et fort tous ensemble, je le dis et je le redis, vous allez me suivre. Je suis assez bon. Ok? Tous ensemble. Je suis assez bon. Au nom de Jésus. En moi-même. Ce truc est caractériel. Ah ben! Ah, je ne veux pas entendre. Il y a des gens qui ont l'image de Dieu déformée et ils ont l'idée, si Dieu me parle, il va me dire des choses très désagréables. Une fois, un gars est venu me voir. Non, il n'est pas venu me voir, c'est sa sœur qui est venue me voir. Mon frère ne veut pas se convertir. Il a vraiment entendu l'évangile, mais il adhère à l'évangile, mais il ne veut pas se convertir. Mais pourquoi? Parce qu'il m'a dit, si j'écoute la voix du Seigneur, si je m'engage sur la voie du salut, je sais que le Seigneur m'appelle au ministère et je ne veux pas aller dans le ministère, je ne veux pas m'engager pour un ministère pastoral, donc je coupe tout, je n'écoute rien du tout. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur des conséquences de l'écoute du Seigneur. En 76, le Seigneur dit à moi et Gloria en même temps, va en France pour propager l'évangile. Mais c'était intéressant. Ce qui était moins intéressant, c'était la suite. On est venu officiellement sans soutien. Sans soutien. Zéro. Virgule. Zéro. On n'avait pas de maison. On n'avait rien. Zéro. 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 Et toute la suite, combien de fois j'ai dit, Seigneur, tu nous as amenés ici? Je comprends pas. Et là, les dialogues commençaient à être intéressants. Quand il démarre une discussion, et parfois c'est long. On était à l'école de langue, et on posait la question, moi et Gloria, mais où est-ce qu'on aille après l'école de langue? Et par un concours de circonstances, le Seigneur nous a indiqué Cahors. Mais c'était très compliqué. On a croisé un homme un jour qui vivait à Cahors. Et quand je dis on était dans la dèche, sérieux. Et ce monsieur, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas dit « on n'a pas un toit, vive-moi !» On n'a pas dit ça. On parlait tout simplement. Et il a dit « si un jour tu as besoin d'une maison, je vous donne la mienne. » Avec combien de lits? Je me trompe toujours. 12 à 15 lits dans la maison. Avec voiture, télé, noir et blanc, mais c'était vieux temps. Hein. Et tout y était. Les couverts, les tables, les meubles, 12 à 15 lits. Et je le contacte, et quand le Seigneur démarre quelque chose, il poursuit. Et Seigneur, on n'a pas une maison. On était prêt à aller à Cahors et vivre sous une tente. Hein? J'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit, mon gars, calme. C'était le lendemain que le monsieur a confirmé l'offre de la maison à Cahors. Et Annie est née à Cahors. Et voilà. Écoute, le Seigneur, il va raconter toute une histoire. Merveilleux. Mais si vous vous braquez sur ceci ou cela, si vous me demandez ça, il y a les conséquences. Si vous raisonnez comme ça, vous allez couper tout court. Terminé. C'est pas l'objectif. C'est d'entrer dans l'histoire de nos vies que le Seigneur lui-même raconte sur nous. Pourquoi on n'entend pas? Pourquoi on ne prophétise pas? C'est un peu la même question. Quatre fois dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 14 plutôt, quatre fois Paul dit « aspirez au don de prophétie ». D'une manière ou d'une autre, il dit « aspirez plutôt au don de prophétie ». Et cette exhortation « aspirez », aspirer, c'est pour qui? Les Corinthiens ou pour nous? Les deux. C'est pour les deux. Aspirer. La dernière fois que tu as aspiré, prophétisé, c'était hier soir? Mois passé? La parole est catégorique. C'est pour absolument tout le monde aspirer au don de prophétie, de parler de la part du Seigneur aux autres. Aux autres. On n'entend pas la voix du Seigneur, c'est le même principe, parce que on ne sait pas quelle case mettre la voix du Seigneur, on ne sait pas comment le gérer. Quand le Seigneur parle, très souvent, il renverse les chariots. Très souvent, on prend une déviation qu'on ne comptait pas faire. Dans le ministère, il est difficile de nous suivre. Je ne parle pas aux gens, là. Venez suivre notre modèle. Et très difficile. On vit des choses ponctuellement, mais ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est électron libre dans les mains du Seigneur. Ça n'a pas de sens. sauf on est disponible pour aller là où le Seigneur veut, quand il veut, dans les conditions qu'il veut. Je raconte une dernière histoire où le Seigneur m'a parlé, qui a entamé le dernier voyage. Il y a 2 ans, j'avais un stand de livres comme ça au camp biblique destiné. Il y avait un livre sur le stand à entretenir la flamme. Et j'étais là devant mes livres et le Seigneur m'a parlé. Bam! Comme ça. Je n'attendais pas du tout. Donne ce livre-là à ce black là-bas. C'est tout. Curieux. Donc je prends le livre, je vais trouver le black, je me présente, John, j'ai des livres et j'aimerais vous donner un livre parce que me semble que le Seigneur veut que tu puisses lire ce livre et je te le donne. Et on a trouvé les choses en Afrique, les Africains, ils aiment les cadeaux. Oh, ils aiment les cadeaux. Donc il a pris le livre avec joie, il est rentré à Burkina Faso avec ce livre. Il arrive chez lui la nuit. Et il se déshabille pour aller au lit avec sa femme, et sa femme regarde Bruno, il s'appelait Bruno aussi, et elle regarde Bruno en état de choc. Bruno, où est le corset? Il portait un corset comme ça, je crois 30 ans. Son dos était complètement en compote, il ne pouvait pas soulever quelque chose, il ne pouvait pas. Il portait un corset tout le temps. Mais sa femme ne voyait pas le corset, mais elle était en panique. Tu as perdu, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, mais il y a un drôle de type là dans le camp destiné, il a pris un livre, il m'a donné le livre, je monte sur l'avion une semaine plus tard, je lis le livre, je suis totalement guéri, après 30 ans de corset. OK. Il me contacte. Ah ben, est-ce qu'il était enthousiasmé? Est-ce qu'il était joyeux dans le mail qu'il m'a envoyé? Tout à fait. Et tout de suite, il a dit, je veux que tu viennes ici à Burkina Faso. Je savais que ça existait, mais je ne pouvais pas indiquer sur la carte, je ne savais pas où c'était. Et après quelques négociations, on a accepté d'aller en Burkina Faso en mission. Dieu nous raconte l'histoire de notre vie si on le laisse parler d'une manière cohérente, en continu. On débarque Burkina Faso et les choses allaient plutôt bien, même très bien. Mais je vous raconte une histoire bien pour vous choquer. Pour vous choquer. On va au marché un jour et je sens quelque chose dans ma bouche. Ça sent, c'est mauvais, vraiment mauvais. Je dis, Bruno, arrête. J'ouvre la porte et je crache. Ma bouche était plein de sang. Plein. Je n'ai pas dit à ma femme, je ne voulais pas qu'elle soit affolée, mais moi j'étais affolé. Je n'ai jamais vu ça. Jamais entendu parler d'une histoire pareille. 100 mètres plus loin, Bruno, il continue, je dis, Bruno, arrête, j'ouvre la porte, je crache. Je l'ai fait 2-3 fois et là, j'ai compris. Seigneur, c'est pas normal. Est-ce que c'était normal? Oh, j'ai jamais eu des bouches pleines de sang. Et j'ai dit tout de suite, au nom de Jésus, que le saignement s'arrête. Tout de suite, c'était arrêté. Gloria m'a demandé, je veux voir ta langue. Ah, il y avait un trou au milieu de ma langue. Un trou, un vrai trou. Avec une tache noire. Glueux, gélatineux. Sur la langue. Je l'ai vécu, c'était effrayant. Garanti, c'était effrayant. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Rien est entré dans ma bouche. Mais d'où vient le trou? Mais rien n'est entré, d'où vient le trou? J'ai parlé un tout petit peu avec le Seigneur. Tu m'as amené un Burkina Faso pour avoir une langue trouée? Ça n'a pas de sens. On prend parfois les petites histoires et on ne les met pas dans le contexte de toute l'histoire qu'il raconte de notre vie. Et il faut tout mettre dans le contenu, dans le plan de Dieu pour nous. Si on prend des petites histoires, trous dans la bouche pleine de sang, bah, j'étais, pour m'effrayer, le jour qu'on a eu l'accident à Beaumont, on a vécu un accident ensemble, c'est ni lui ni moi qui a conduit, mais c'était sérieux. Tu n'étais pas affolé? Si. Tu étais affolé?
Un petit peu quand même.
Moi, non. Bam! On est rentré dans un grand panneau d'autoroute. Et les poutres qui soutenaient le panneau, ont plié. Complètement. Je suis pas quelqu'un qui est affolé. Mais là, j'étais affolé. Mais quand j'ai laissé le Seigneur contextualiser, je n'étais pas amené là pour vivre ça. J'ai tout autre chose. Et j'ai levé les yeux vers mon Seigneur, Jésus. Et j'ai pu regarder l'histoire de la bouche. Autrement, c'était une fixation. Est-ce que vous aspirez? Vous aspirez? C'est quelle marque d'aspirateur là-bas? Dyson! Pourquoi j'ai choisi Dyson? Pourquoi? Ça vaut beaucoup. Non, c'est le meilleur, c'est top du top. Vous êtes top du top. Vous êtes top du top. C'est pas le plus cher, Annie? Tu protestes? Ok. On va discuter de ça dans le manuel. Hein. Ma fille m'aide. Hein? Oui. J'ai peur. Combien de fois, j'ai entendu une fois un chiffre, combien de fois le Seigneur a dit à ses apôtres, ses disciples, n'ayez pas peur. C'est la condition humaine. Tout changement brutal, la vie spirituelle, il y a une crainte qui vient sur le monde entier. C'est la deuxième fois que je parle de ça. Première fois que j'ai parlé de ça, c'était un rassemblement de 700 personnes. Et j'ai donné un nom à une crainte, une peur universelle. C'est la peur de la fin du monde. Et j'ai parlé aux chrétiens, vous voyez ce qui est écrit dans la Bible et vous vous dites, ça va nous arriver. Est-ce que vous vous dites ça? Ouh. Les temps difficiles, est-ce qu'on est au début des temps difficiles? Ça va chauffer. J'ai fait un appel, les 700 qui étaient là, qui a peur apocalyptique. 400 se sont levés, ont jamais eu un appel comme ça, jamais vu ça. 400 personnes des 700 sont venues devant pour la prière. Dieu veut que les chrétiennes aujourd'hui soient enracinées dans l'assurance que Jésus et son Père et le Saint-Esprit, ils règnent. Il règne en toutes circonstances, quoi qu'on voit, quoi qu'on vive. S'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus rien du tout, il est Seigneur. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Je vais dans le pratique, ok? Cette semaine, le groupe prophétique de l'église de Mulhouse, on a parlé d'une parole qui vient d'Alsace, de quelqu'un en Alsace que je connais pas. Et on l'a examiné, discerné ensemble cette parole. Et dans la parole, il exhorte l'église de stocker la nourriture pour les temps à venir. Oh là là. Après la vaccination et l'antivaccination, c'est le sujet, ça chauffe. C'est bon de stocker la nourriture pour le temps qui vient? J'entends ma femme dire oui. Et vous là-bas? Oui, vous là-bas? Je ne sais pas. Ou non? Non? Ça dépend. Dieu pourvoit. Oui. Tous les avis sont permis, hein. On ne va pas se fâcher. Mais le système de distribution qu'on a au champ, etc., Lidl, Aldi, tout ça, est tellement fragile, pour un oui, pour un non, les magasins sont vidés. Je me souviens, dans le temps quand j'ai vécu à Waterloo, il y avait des grèves des livreurs de camions citernes. Vous vous rappelez de ça? Et il n'y avait plus d'approvisionnement pour Auchan. Je suis allé à Auchan, et ben, drôle de truc. Il n'y avait plus de sucre dans tout le magasin. Il y avait dévalisé, tout passait. Pour un oui, pour un non, toute la nourriture disparaît des magasins. Le stock de plus grand Auchan d'ici, ou n'importe quel magasin, le stock qu'ils ont derrière, c'est 3 jours. Pour un petit papa, les 3 jours, ça passe très très vite. Je crois qu'il est raisonnable, et je le suggère, que vous réfléchissiez peut-être ensemble. Là, on s'est engagé, l'équipe prophétique s'est engagée à vraiment débattre ça et chercher la face de Dieu sur la question. Ce n'est pas une idée que je balance comme ça, mais de chercher la face du Seigneur. Le temps qui est devant nous, quelle est une réponse adéquate. On ne veut pas vivre dans la peur de manquer, mais on veut agir avec sagesse. Joseph savait qu'un temps difficile venait et il gardait la nourriture pour les temps difficiles. J'aimerais équilibrer ce que je viens de dire, je vais dire le contraire, un peu, pas trop. Un jour, j'ai présenté le sujet au Seigneur. Seigneur, si on manque de nourriture, je crois que c'est fort probable qu'on va voir ces jours-là. Mais si on manque de nourriture, honnêtement, j'avais peur. Je l'ai exprimé devant le Seigneur, faut-il stocker la nourriture? Et j'ai eu la conviction, c'est une bonne chose. Mais, le Seigneur m'a parlé. Wow! Wow! Je vous soumets. Quand je dis, le Seigneur m'a parlé, je le dis de cette manière. Vous comprenez? De cette manière. Quand je dis le Seigneur m'a parlé, je ne dis jamais ça de cette manière. Jean-Luc, tu comprends la différence? L'un est imposé, l'autre est soumis. Je vous soumets cette parole. Le Seigneur me parlait à mon cœur, tu peux stocker la nourriture, c'est une bonne idée, mais tu ne peux en aucun cas stocker assez de nourriture pour le temps à venir. Il faut compter tôt ou tard sur ma provision. Et je serai là au milieu de mon peuple, comme je l'ai fait dans le désert avec Moïse, je pourvoira. Amen. Crainte. Ha. Ha. Crainte de la persécution. Ha. Est-ce que les chrétiens à l'époque de Rome étaient persécutés?
Oui.
Est-ce qu'ils avaient droit libre à la parole, à l'annonce de l'évangile? Oui ou non? Non! Mais c'est la période où l'évangile a avancé le plus vite. Oui ou non? Oui! Aujourd'hui en France, on peut annoncer l'évangile librement? Oh, fais-le au boulot, hein? Fais-le au boulot. Moitié des gens qui témoignent au boulot, ils ont un blâme ou quelque chose. On n'est pas totalement libre. On peut parler à gauche, à droite, mais totalement libre, non. À Mulhouse, on n'avait pas le droit de faire marche pour Jésus pendant 20 ans. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de se manifester en public à Mulhouse, en Alsace. On n'avait pas le droit. Mais mes amis, je vous dis quelque chose, si le Seigneur nous parle, il veut qu'on transmette ce qu'il dit. S'il nous parle, il veut qu'on parle. Et une chose, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Pour vous lancer, vraiment pour vous lancer, j'ai une habitude de faire quelque chose. On l'a vécu hier. Chaque fois que je vais quelque part, Castorama, le roi Merlin, en restaurant, celui qui me sert, la caissière, le caissier, je termine toujours que le Seigneur Jésus vous bénisse. Jésus, il vous aime. Systématiquement, droit dans les yeux, avec amour, avec un grand sourire, mais qui ne voit pas, mais la voix, ils entendent. J'encourage tout le monde, dans tous les contacts sociaux que vous avez, dans tout, de partager quelque part la bénédiction que nous vivons, qu'il est temps d'annoncer le roi des rois. Il est temps de prononcer le nom de Jésus. Si on veut qu'il nous parle, il faut qu'on parle. Plus qu'on parle, ça fait un vide et il va nous parler davantage. Normalement, dans un restaurant, il m'a amené gentiment un très bon restaurant. Ouah, c'était bien. Normalement, je prends le serveur à part, mais c'était trop, il y avait trop de mouvement. Et normalement, je prends le serveur à part, serveuse, n'importe. Et je dis, tout simplement, écoutez ce que je dis. Si cinq d'entre vous faites la même chose, je suis dans la joie. Vous avez bien servi. On est vraiment content de temps qu'on a passé avec vous. Je sais beurrer le pain bien étalé. Je suis très content de vous. Et j'aimerais vous rendre service. Ah? J'aimerais vous rendre service. Je suis chrétien et le meilleur service que je peux vous proposer, c'est de prier pour vous. Une fois sur trois, j'ai une parole prophétique pour la serveuse. Une fois sur trois. On a vécu des choses invraisemblables, ici dans le Nord même, avec ça. Dans le Nord. Et je termine toujours, je laisse une bénédiction au nom du Seigneur. Qui n'est pas capable de dire « Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ » Qui n'est pas capable de dire ça? Apparemment, tout est bon. Hein? Il n'y a que le faire qui manque. Ok. C'est réservé à un petit nombre. C'est Bruno, Marie, c'est 4-5 autres. Non, c'est pour tout le monde. Prophétie, écouter la voix du Seigneur, c'est pour absolument tout le monde. Il y a des doctrines, cessationnisme, qui disent qu'il n'y a plus de voix prophétique, il n'y a plus de ministère apostolique, il n'y a plus de dons spirituels. Dès que Jean l'apôtre a mis l'encre sur la dernière page d'Apocalypse, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus d'apostolique. C'est un peu schématique, il y a plus de liberté que ça, mais ça revient à ça. Si on enlève le prophétique de la Bible, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. L'annonce du Messie, l'annonce du royaume qui va venir, l'annonce du retour d'Israël, tout ça c'est prophétique, c'est le livre le plus prophétique du monde. Nostradamus, dégage. C'est farfelu. Mais la Bible essentiellement est prophétique. Et il faut qu'on redécouvre le prophétie, le prophétique en tant qu'assemblée. Ensemble. Saturation. Il y a trop de choses qui se passent dans nos vies. Trop de choses. J'ai une parole prophétique d'une page et demie pour Eddie. Il y a quelques mois de ça, Eddie, il est important, impératif même, que tu te retrouves à part, sans rien faire, sans coup de fil, devant le Seigneur. Et il a pris, boum, et il a fait. Et ça lui fait bien considérable. Éliminer la saturation, il y a trop de choses. Ok, je saute. Ah là 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 là. Oh, j'aime cette brebis. Oh, ah. Après ma femme, c'est... Ouais, bref. Et Annie et Philippe aussi. Madame, tu peux le dire haut et fort. C'est une promesse. Il n'y a aucune condamnation dans toutes mes paroles, aucune. Là, c'est une promesse. Mes brebis entendent ma voix, c'est une promesse donnée à tous ceux qui disent « Je veux suivre Jésus ». Si vous avez fait cet engagement, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être sans être conscient qu'il vous parle. On a jusqu'à midi, plus ou moins. C'est bon, je ne vais pas vous ennuyer, hein, pas trop. Hein. Ah, on termine, c'est pas blouf, pas du tout. Et on va se taire totalement. Silence total, pour que le Seigneur parle à nos cœurs. La plupart d'entre vous, vous allez entendre quelque chose direct de la part du Seigneur. Quelques-uns vont entendre une parole pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aller lui dire ce que le Seigneur te dit. Ok, Seigneur, nous t'écoutons.